bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom déjà, s'il vous plaît?
Alors, je m'appelle Myriam et je suis guide touristique au Centre Spatial Guyanais depuis 2004.
Ok. Et vous pouvez m'expliquer un peu l'histoire du Centre Spatial ici?
Alors, le Centre Spatial a été créé en 1964, lorsque la France a quitté l'Algérie, à Maghir, où elle avait commencé l'aventure spatiale. Et donc, comme l'Algérie est devenue indépendante, la France a dû quitter l'Algérie, trouver un nouveau site. Et c'est Kourou qui a été choisi pour plusieurs critères, notamment le fait d'avoir la proximité de l'équateur, qui nous donne un gain de vitesse dès le décollage, puisqu'on bénéficie de la vitesse naturelle de la rotation de la Terre, ce qui fait qu'on peut réduire la quantité d'essence, qu'on appelle ergol, dans les réservoirs. Et en plus, on peut avoir plus de poids satellite sous la coiffe, sous la partie haute des lanceurs. Par exemple, Soyouz qui décolle à Baïkonour au Kazakhstan transporte 1,8 tonnes sous sa coiffe, et en rapprochant Soyouz de l'équateur, ici on a une même Soyouz, même technologie, qui transporte 3,15 tonnes. Donc on a quasiment doublé la masse d'emport ici en Guyane. On a aussi l'ouverture vers la mer pour envoyer en toute sécurité, si jamais il y a un incident, ben, les éléments ne retombent pas sur les populations, mais directement en mer. Et on peut atteindre aussi les deux trajectoires, les deux chemins où on déposera les différents satellites du même endroit. Les Américains et les Russes utilisent deux bases de lancement différentes pour atteindre ces deux mêmes directions. Et puis le dernier point, c'est le fait d'avoir ici pas de cyclone, pas de raz-de-marée, très peu de tremblements de terre, donc des bonnes conditions climatiques pour installer une base de lancement. Et donc les travaux ont commencé en 64 et on a eu un site opérationnel le 9 avril 1968.
Quels sont les espoirs, nos futurs qu'on espère pour pour une aventure spatiale?
Alors, les différents espoirs, c'est d'autres lanceurs pour envoyer d'autres satellites. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une gamme de lanceurs complète. Trois lanceurs ou trois fusées, hein, c'est pas grave le nom qu'on leur donne. Vega, le petit lanceur qui transporte maximum 1,5 tonne sous sa coiffe, plutôt pour les satellites scientifiques, d'observation de la Terre ou militaires. Soyouz, ce lanceur complètement d'origine russe pour les moyens satellites, jusqu'à 3,15 tonnes. Et puis Ariane 5 pour les très très gros satellites, en général de télécommunications, jusqu'à 10 tonnes sous sa coiffe. Et le futur, c'est un autre lanceur qui s'appelle Ariane 6, qui devrait arriver d'ici 2020 pour emporter des satellites de 4 tonnes et de 10 tonnes. Pourquoi un nouveau lanceur? Parce qu'il sera moins coûteux à la construction et à l'assemblage, donc du coup on pourrait rester compétitif face à la concurrence, notamment des Américains, avec le SpaceX.
Pourquoi tous ces lanceurs s'appellent Ariane?
Alors, tous les lanceurs ne portent pas le nom Ariane, mais c'est vrai que nous, on a eu d'Ariane 1, Ariane 5 aujourd'hui. Les chiffres ont changé parce qu'on a changé les lanceurs, les fusées, avec des moteurs de plus en plus puissants pour transporter de plus en plus gros satellites. Vega, c'est un lanceur qui veut dire lanceur de nouvelle génération, mais en italien. Alors, je ne vous le prononcerai pas parce que je ne sais pas le faire. Et Soyouz a également un nom particulier qui veut dire union, compagnon, un des deux. Donc, chaque lanceur a un nom différent en fonction du pays qui le lance. C'est toute une histoire. Et pour Ariane, il y a plusieurs noms qui avaient été choisis, et c'est Ariane qui a été gardé. C'est le fil conducteur qui a permis à Thésée, dans la mythologie, de quitter le labyrinthe et de pouvoir sortir. Donc on a gardé ce nom Ariane.
D'accord. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on... La conquête spatiale, les espoirs, en fait, c'est quoi? J'y connais rien.
Alors, les espoirs pour la conquête spatiale sont différents en fonction des nations, que ce soit les Américains, les Européens, les Russes, les Chinois, les Indiens, qui ont aussi des bases de lancement. Pour l'Europe spatiale, c'est de découvrir plusieurs choses. Et pourquoi pas se rendre sur la planète Mars, qui est le prochain objectif. On a fait la Lune. C'est tout ce que l'Europe a fait pour l'instant. Et l'Europe a envoyé un programme justement dernièrement avec le lanceur Soyouz depuis Baïkonour au Kazakhstan, le programme ExoMars, pour envoyer une petite sonde, un petit robot qui va se poser sur la planète Mars et examiner un petit peu tout ça. Donc le prochain objectif pour l'homme général, mondial, c'est pourquoi pas aller marcher sur la planète Mars, mais un voyage qui paraît très compliqué. Il faudrait près de 2 ans et demi de voyage aller-retour pour s'y rendre, tellement c'est loin.
Ouais, c'est pas à porte à côté. Et pourquoi en fait vouloir absolument aller sur d'autres planètes?
Alors pourquoi, ce sera une réponse un peu plus personnelle, pourquoi l'homme veut se rendre sur d'autres planètes? Je pense que c'est pour pouvoir partir vivre sur une autre planète si jamais celle-ci, ben, on a malheureusement épuisé toutes les ressources naturelles qu'on a pour pouvoir explorer d'autres planètes et voir si on peut y aller y vivre ou aller en vacances, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment découvrir ce qu'il y a autour de nous et pourquoi pas y aller un jour et y rester. On parle même d'une base qu'on pourrait faire, une base de vie sur la Lune qui serait en fait l'intermédiaire avant d'arriver sur Mars où on pourrait rester quelques semaines et ensuite partir vers la planète Mars pour éviter ce long voyage de un an de voyage aller.
Donc en fait, les livres pour enfants, tout ça, ils sont pas totalement torts, ils sont peut-être juste en avance.
Alors les livres pour enfants sont en avance comme les livres de Jules Verne à l'époque qui imaginaient qu'on est dans l'espace 100 ans avant qu'on le fasse. Et voilà. Donc les livres sont pas si imaginaires, les films d'ailleurs sont pas si imaginaires. On voit souvent des films de science-fiction, mais c'est souvent ce qu'ils imaginent faire et ce qu'on fera peut-être dans le futur.
Et humainement parlant, avant de chercher une solution à qu'on aurait épuisé les ressources sur la Terre, il faudrait peut-être réfléchir à ne pas épuiser les ressources.
On est bien d'accord, effectivement, avant de pouvoir imaginer se rendre très loin, autant protéger notre planète Terre et être plus écologique, je suis bien d'accord. C'est mon avis personnel, bien sûr.
Combien ça coûte un lancement ?
Alors, un lancement, c'est un coût mondial. Hein. Quasiment toutes les bases de lancement font le même coût. C'est entre 20 000 et 25 000 dollars par kilo de satellites envoyés dans un lanceur. En sachant qu'en télécommunication, on a un poids moyen d'environ 5 tonnes. Et dans le domaine du spatial, il y a autant de dépenses d'argent que de rentrées d'argent pour développer les lanceurs, développer une zone de lancement. Ça coûte beaucoup d'argent, payer les employés, faire des recherches scientifiques. Donc, il y a autant de rentrées que de dépenses. Souvent, on est plus ou moins à l'équilibre au niveau des bilans financiers.
Je comprends les dépenses, mais les rentrées viennent d'où ?
Les rentrées d'argent, elles viennent justement des clients satellites qui payent pour pouvoir envoyer leurs satellites dans l'espace.
Différents opérateurs, tout ça.
Effectivement, donc il y a des grands opérateurs de lancement qui ont des très grandes sociétés de télécommunications comme Eutelsat ou Intelsat. Ils envoient un satellite qui va durer 15-20 ans dans l'espace et fournir en télécommunications, télévision, téléphone portable ou encore Internet.
Vous avez une idée du coût environ ?
Alors, j'ai pas une idée du coût global. En tout cas, le client satellite qui veut envoyer un satellite paye quasiment le même montant, la même fourchette, entre 20 000 et 25 000 dollars pour la construction du satellite, donc en fonction du poids de son satellite. Ensuite, il va payer un coût de lancement qui est le coût identique. Et parfois, le client va devoir assurer son satellite au cas où il y a un souci pendant la mission. Et c'est un troisième coût quasiment identique. C'est la raison pour laquelle souvent les clients cherchent le lanceur le plus fiable pour éviter de payer un troisième coût d'assurance, effectivement.
Moi, je suis arrivé en Guyane il y a 3 jours. Pourquoi, en fait, faire des recherches pour quelque chose qui va coûter cher à la planète ici, alors que c'est ici, en France, qu'on trouve le plus de gens qui sont proches de la nature?
Alors c'est vrai que c'est un paradoxe entre la Guyane où on voit beaucoup de végétation, des peuples amérindiens ou encore Bushnengue qui restent près du fleuve et la partie spatiale, c'est vraiment deux parties différentes en sachant que d'une grande démission du CNES, donc c'est le Centre National d'Études Spatiales, c'est l'Agence Spatiale Française, a une mission en Guyane de pouvoir reverser également une partie des finances qu'ils gagnent dans le domaine du spatial pour aider les communes à se développer, aider les personnes à créer des entreprises, aider les jeunes qui veulent partir en métropole pour leurs études, donc il y a des fonds qui sont reversés pour aider également la population guyanaise à avancer en même temps qu'avance le spatial en Guyane.
Vous aidez à développer l'économie guyanaise en fait.
Oui, effectivement. Le centre spatial représente à peu près 20% du PIB de la Guyane.
Ah ouais, quand même.
Et quand même. Et c'est près de 1700 salariés qui travaillent au quotidien sur la base spatiale, dont 70% sont des résidents, donc soit des locaux guyanais de naissance, soit des personnes qui résident en Guyane pour beaucoup, beaucoup plus d'années que 3-6 ans. Donc on a des missionnaires qui viennent pour quelques années et des locaux, on a 70% sur les 1700 qui travaillent quotidiennement sur la base spatiale. Donc au moins une famille sur deux à Kourou en tout cas, et aussi un peu à Cayenne, Rémire ou Sinnamary, travaillent dans le domaine du spatial. Et un emploi direct sur les 1700 va générer 2,5 emplois sur le reste du département de la Guyane. Donc plusieurs sociétés qui sont en sous-traitance, qui viennent travailler de temps en temps. Il y a des appels d'offres qui sont lancés chaque année et une société répond pour pouvoir faire un besoin en BTP, en construction de bâtiments, en entretien de la clim par exemple. Donc Il y a des personnes qui travaillent tous les jours ou de manière partielle sur la base spatiale. Quand même en Guyane, ça touche pas mal de personnes qui travaillent sur la base spatiale, effectivement. Donc on est impliqué. Et puis un lancement, vous n'en avez pas encore vu, c'est dommage, mais un lancement, c'est très bruyant, c'est très lumineux. Donc à chaque fois qu'il y en a un, on sait forcément qu'il y a un lancement, c'est visible. Et ça ramène aussi beaucoup de clients satellites. Donc ils viennent pour le lancement, ça ramène des missionnaires qui viennent aider à l'assemblage des lanceurs ou à la finalisation des satellites, donc près de 500 personnes minimum en plus qui viennent tous les un mois et demi et qui vont également contribuer à l'économie de la Guyane dans les hôtels, dans la restauration, dans les loisirs qu'il y a également en Guyane. Et puis tous les visiteurs qui viennent nous voir, on accueille près de 20 000 visiteurs par an.
Oui, quand même.
Oui.
Et vous, il y a combien de temps que vous êtes ici?
En Guyane?
En Guyane d'une part et sur la base en...
Alors donc moi, je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi en Guyane, donc ça fait plus de 30 ans que je suis en Guyane, que je suis guyanaise et je travaille au CSG, au Centre Spatial, depuis 2004, mai 2004. Donc ça fait 12 ans que je fais les visites guidées, que je reçois les scolaires ou le grand public pour expliquer justement qu'est-ce qu'on fait en Guyane, c'est quoi le spatial, à quoi ça nous sert aujourd'hui, parce que tout le monde ne sait pas forcément. Et du coup voilà, c'est mon métier, guide touristique.
Vous sauriez me dire quelles études sont demandées pour approcher un peu tout ça en fait?
Alors ça dépend des métiers, il y a près de 80 métiers différents sur la base spatiale, sur les 1700 personnes. On a même des alpinistes qui montent en hauteur à nettoyer les bâtiments ou la maquette que vous avez dû voir à l'entrée. Nous en tant que guide, on nous demande Bac plus 2, avec l'anglais bien sûr obligatoire puisqu'on rencontre des clients qui viennent du monde entier, souvent américains, chinois, japonais ou indiens. Donc du coup, en général, Bac plus 2, c'est un passeport sur la base spatiale et après, plus on a d'études et plus on pourra aller loin. Mais en tout cas, chacune des personnes a au minimum Bac à Bac plus 2 pour travailler sur la base spatiale. Et pour être guide, on a une formation d'un mois et demi. On continue en temps complet où on apprend tout, mais tout sur le lanceur. On décortique chacun des moteurs, comment ça fonctionne, où ça va, quelle durée de temps ils vont vivre, pourquoi. Et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et à la base, moi, je suis de cursus littéraire. J'étais pas du tout bonne en sciences. Et bizarrement, aujourd'hui, j'explique des choses scientifiques, mais justement de manière très pédagogique et très vulgarisée pour que les personnes le comprennent.
Et comment c'est ta passion à la base, l'espace, l'espace et tout?
Alors, à la base, c'était pas du tout ma passion, mais ayant grandi en Guyane, j'ai vu des lancements quasiment tous les deux mois, des lanceurs décollés. Et c'est vraiment en arrivant ici que j'ai tellement aimé ce que j'ai appris. Et plus j'apprenais, plus j'avais envie d'apprendre. Et je suis de circus littéraire, donc rien à voir avec le scientifique. C'était pas du tout mon fort. Au bac, j'ai dû avoir 10 minimum parce que je me suis forcée. Et du coup, en étant ici, je fais plus de scientifique qu'avant, mais ça me passionne. C'est différent.
Et comment on passe du littéraire au scientifique, concrètement?
Concrètement, juste, j'étais à la recherche d'un emploi. J'étais à Pôle emploi et il y avait un poste de guide touristique. Et du coup, j'ai tenté l'aventure. Et je devais être là pour un mois et demi de formation test et ensuite un CDD. Finalement, il y a eu une ouverture. Je suis restée en CDI et ça m'a complètement plu. Et là, c'est devenu une passion.
Est-ce que vous savez ce qu'en pensent les Amérindiens eux-mêmes?
Alors, je ne saurais pas vous dire ce que pensent les Amérindiens de la base spatiale et de ce qu'elle fait en Guyane. Je ne saurais pas vous dire. Oui, vous leur demanderez. C'est une bonne. Vous leur demanderez qu'est-ce qu'ils en pensent. Après, ils sont assez loin de nous, donc ils n'ont pas forcément le même rapport que nous en Guyane. Et justement, encore une autre démarche du CNES, c'est de rendre accessible cette science aux peuples éloignés. Et chaque année, il y a un programme qui s'appelle Au fil du fleuve. Et donc, il y a des personnes du CNES qui partent en pirogue sur justement toutes ces personnes qui vivent près du fleuve et qui font des mini-constructions de fusées à eau, micro-fusées, qui expliquent le domaine du spatial parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de venir jusqu'à nous. Donc, c'est eux qui se déplacent jusqu'à ces peuples éloignés pour pouvoir leur expliquer ce qu'on fait en Guyane quand même.
Et les Indiens réagissent comment à votre arrivée généralement?
Alors moi, j'y ai jamais été sur le voyage au fil du fleuve, mais ils sont très très contents parce que ça reste très pédagogique, très vulgarisé, où on se met à leur portée. Et du coup, c'est très amusant parce qu'ils sont souvent en pieds nus ou en petite tenue de leur village et ils apprennent des choses scientifiques, ce que c'est que l'action-réaction, la poussée des moteurs, comment sont construits une fusée. On leur amène plein de petits objets pour qu'ils puissent l'approprier. Et en général, ils sont très très contents parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils sont émerveillés et ils posent plein de questions.
Les missions qui a eu d'effectuer jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont partis au plus longtemps, sont partis combien de temps?
Dans l'espace? Alors, d'ici en Guyane, on n'envoie que des satellites. On n'envoie pas d'hommes, pas d'animaux, c'est vraiment que l'envoi de satellites. Aujourd'hui, ce sont les Russes et les Chinois qui envoient des hommes dans l'espace. En général, ils restent entre 6 mois et 10 mois dans ce qu'on appelle la Station Spatiale Internationale, qui est environ 400 km au-dessus de nos têtes, et ils font plein de recherches scientifiques sur la médecine, ils font pousser des plantes, ils avaient même prévu de faire produire la première bière de l'espace. Donc, ils ont pas mal de, pas mal de projets comme ça, mais ils ne partent pas d'ici. On n'envoie pas d'hommes.
Et en Guyane, ici, c'est quelque chose que vous aimeriez faire, que la base aimerait faire?
Alors, pour l'instant, au niveau de l'Europe spatiale, ils n'ont pas du tout prévu de faire des vols habités. Enfin, vraiment que l'envoi de satellites, ce n'est pas un projet qui est prévu.
Bah, je peux vous laisser travailler maintenant. Merci à vous en tout cas.
Bah, je vous en prie et bonne journée ou bonne soirée à ceux qui nous écoutent. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'est un plaisir.